Escalade, ma radio.
Les couleurs du monde.
Histoire.
Pensée.
Culture.
De Villefranche à Tataouine.
Auditeurs de Calade ma radio, bien le bonsoir, bien le bonjour, tout dépend à l'heure à laquelle vous nous écoutez. Vous écoutez Couleurs du Monde, émission mensuelle passionnante, qui ce mois-ci va parler d'un sujet pas super drôle, c'est-à-dire le harcèlement scolaire. Vous ne le savez pas, mais nous baignons tous et toutes les organisateurs de Couleurs du Monde dans un milieu scolaire, hein, dans un lycée notamment. Et donc, c'est un sujet qui, tôt ou tard, devait arriver devant les ondes. Je vais laisser la parole à Emma, ma comparse, et on donne un petit salut à nos deux autres comparses qui ne sont pas présents ce soir, Jean-François et Geneviève. Et Emma, je vais te laisser en dire un petit peu plus sur ce sujet et présenter surtout notre invité.
Oui, alors le sujet, je vais le présenter juste après, mais d'abord, on est en compagnie d'Annie. Est-ce que tu peux te présenter, Annie ?
Mais oui, avec plaisir. Donc, je m'appelle Annie, je suis infirmière en milieu scolaire dans la région. Et je suis contente de participer à l'émission. C'est une première aussi pour moi de parler dans une émission radio et sur ce sujet qui est important, effectivement. J'en suis ravie.
Sur lequel tu travailles comme vraiment au quotidien, en fait.
Effectivement, parce que là, on va parler de la souffrance des enfants, que ce soit à quel que soit l'âge qu'ils ont, du primaire jusqu'au collège, lycée et même plus.
Tout à fait.
Est-ce
Merci
que tu veux, Emma, que je présente un petit peu le plan de notre émission ?
Allez, vas-y.
Alors, dans une première partie, on va un peu définir cette notion. Il faut savoir de quoi on parle. Il faut toujours commencer comme ça, c'est normal. Et on va faire une sorte d'état des lieux de la situation du harcèlement scolaire. Ensuite, après une pause musicale, nous en viendrons à la question clé. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment agir à ce niveau-là ? Et dans une troisième partie, après la deuxième pause musicale, on en viendra à une autre question qui est importante aussi, les causes du harcèlement scolaire. On y va, Emma, je te rends la main ?
Tout à fait. Alors, on va commencer déjà par une définition. Et alors, figurez-vous que sur le site de l'Éducation nationale, on y trouve une définition qui n'est pas si mal. Donc, je l'ai piqué. Ce qui est écrit, c'est qu'en milieu scolaire, le harcèlement, c'est le fait pour un élève ou un groupe d'élèves de faire subir de manière répétée à un camarade des propos ou des comportements négatifs, voire violents.
D'accord.
Donc le harcèlement, il a pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne, de créer un environnement qui soit intimidant, hostile, dégradant, humiliant, offensant. C'est quand même...
D'accord.
Quelque chose qui va être vraiment toucher la personne, pas forcément que physiquement.
Oui.
Et avec le développement des nouvelles technologies, notamment des réseaux sociaux,
ouais.
Le problème, c'est que ce harcèlement va pouvoir dépasser le cadre scolaire et aussi affecter les jeunes à travers ce qu'on appelle le cyberharcèlement, que je vais définir également.
La sphère s'est élargie avec les réseaux sociaux.
Exactement.
C'est terrible.
Hein.
Déjà, c'était un problème, mais alors là, ça devient terrible.
Tout à fait. Et justement, les victimes, elles sont souvent seules face à cette menace qui peut être diffuse parce que quand on parle de cyberharcèlement, parfois, on ne sait pas qui...
Bien sûr, à l'origine des
messages ou des propos. Mmh. Alors, je vais juste, pour finir sur le harcèlement, il y a une définition un petit peu plus concrète qui donne des exemples un petit peu plus concrets qui a été élaborée par le psychologue Dan Holworth. J'espère que je le prononce correctement. Il dit qu'un élève est victime de harcèlement lorsqu'il subit de façon répétitive des actes négatifs de la part d'un ou plusieurs élèves. Et que ce comportement négatif, il va se produire lorsqu'un élève ou un groupe d'élèves, il inflige un malaise qui peut être physique, donc frapper, pousser, taper du pied, pincer, le retenir, ce genre de choses, ou bien verbal, donc des moqueries, des petits surnoms, des taquineries. Et donc, ces actions négatives, elles peuvent aussi être manifestées par, pas forcément par de la parole, de contact physique, mais par des grimaces ou des gestes obscènes aussi, qui va être répété, qui vont être répétés, pardon. Et aussi un ostracisme, c'est-à-dire refuser, par exemple, d'intégrer l'élève dans un groupe. Voilà, de façon répétitive. Ça aussi, on peut considérer que c'est du harcèlement quand on va toujours mettre de côté
Organiser une forme d'isolement de la personne.
Exactement.
Quoi.
Mais c'est par exemple ce qu'on retrouve aussi dans les groupes de sport où ils doivent choisir pour faire une équipe de hand et des choses comme ça. Et c'est toujours les mêmes qui ne sont pas choisis.
Ouais,
et ça, c'est douloureux.
Absolument. Donc, si je résume, donc pour le harcèlement, hein, trois caractéristiques, si je dois faire vraiment un point rapide. La violence, c'est-à-dire qu'il y a un rapport de force ou de domination d'une ou plusieurs personnes sur une ou plusieurs victimes. La répétitivité, c'est-à-dire que ça arrive de façon régulière. Ouais. Et l'isolement de la victime.
D'accord.
Et donc, j'ai dit tout à l'heure qu'à ce harcèlement va venir s'ajouter le cyberharcèlement. Ouais. Alors, la définition, je l'ai prise aussi sur le site de l'Éducation nationale, puisque là, on parle de cyberharcèlement dans le cadre du milieu scolaire.
Oui, bien sûr, comme complément, quelque part.
Voilà, c'est ça. Je ne parle pas de cyberharcèlement de façon plus globale.
Oui, bien sûr.
Donc, c'est un acte agressif, intentionnel, perpétré par un individu ou un groupe d'individus au moyen de formes de communication électronique, de façon répétée, à l'encontre d'une victime. Donc d'un élève, d'un étudiant, qui ne peut pas facilement se défendre.
Ouais.
Et donc, ce cyberharcèlement, il peut se pratiquer via les téléphones portables, mais aussi les messageries instantanées, ou bien les forums, les chats, les jeux en ligne, les emails, les réseaux sociaux, bien sûr.
Quand même, qui sont quand même le plus gros biais, je pense, enfin le plus gros moyen.
Les sites de partage de photos aussi, et même éventuellement les groupes de classe, par exemple, que nos élèves adorent se faire un groupe de classe.
Oui,
alors parfois,
oui,
c'est très bien pour échanger des devoirs, ils ont oublié un truc, il se passe les infos, mais parfois, ça peut aussi dériver. On l'a déjà vu, nous, au lycée.
Ouais. Très bien, donc on a déjà posé les bases en termes de définir, savoir de quoi on parle précisément.
Absolument. Et du coup, si je dis un peu qu'est-ce qui peut être fait vraiment en termes de cyberharcèlement, ça peut être des messages d'insultes, des messages de moquerie qui sont envoyés directement à l'élève ou bien qui vont être postés sur un réseau social. On va poster par exemple sa photo qui va être trafiquée ou des petits mots méchants ou voilà, ou de créer un fil de discussion sur l'élève en question par exemple.
Ah ouais.
Ou aussi éventuellement publier une photo ou une vidéo de l'élève qui est en mauvaise posture, qu'on aura pris en photo à son insu par exemple, qui peut, alors quand ça va vraiment très loin, peut être à caractère sexuel.
Ouais, là,
ça arrive
dans les formes
aussi
les plus dures,
quand même, plutôt au lycée, pour le coup, que chez les plus petits. Et ce qui est vraiment très, très problématique, je l'ai dit déjà tout à l'heure, c'est que le cyberharcèlement poursuit l'enfant ou l'ado jusque dans son intimité. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne s'arrête plus aux portes de l'école et la victime, en fait, n'a plus de répit.
Ouais,
Elle n'a plus d'endroit pour souffler, finalement.
Oui, oui, tout à fait. Ok, on va passer donc à l'aspect état des lieux, alors, si je ne me trompe pas.
Tout à fait. Alors, je vais donner quelques chiffres. J'étais assez rapide parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de chiffres officiels.
Sur le harcèlement en général.
Sur le harcèlement en général.
Ouais.
Donc, on recense un enfant sur 10 qui est victime de harcèlement à l'école.
D'accord.
Ce qui fait quand même à peu près 170 000 élèves concernés. Et ça, c'est plus fort dans les petites classes et ça va diminuer au fur et à mesure que la scolarité avance. En gros, au primaire, on a à peu près 12% d'élèves qui se disent victimes de harcèlement.
D'accord.
Au collège, 10%, ça descend un petit peu. Et au lycée, on est à 4%. Donc, c'est
quand
même
une baisse forte au lycée.
Moins
fort
au lycée. Voilà.
Ok, très bien.
Mais c'est parce que c'est toujours difficile d'évaluer, en fait.
Oui, c'est-à-dire que ce sont des chiffres qui sont basés sur des témoignages et donc qui ne sont pas absolument... c'est pas qu'ils sont pas fiables, c'est qu'ils ne sont pas forcément complètement représentatifs de la réalité parce qu'il y a aussi des jeunes qui ne parlent pas.
Vous pensez qu'il peut y avoir une sous-évaluation au niveau lycée de la proportion?
Un peu,
c'est possible.
C'est possible.
D'accord, très bien.
Alors, les signes qui doivent alerter. C'est moi qui en parle, hein. On est d'accord.
Vous faites comme vous voulez.
Pardon,
vous êtes libre,
dames,
on chers, vous laisse faire, mesdames.
Chères auditrices et auditeurs, j'ai eu un petit moment de doute. Alors, les signes qui vont pouvoir alerter les parents, par exemple, ou l'entourage, et qui sont aussi en fait, des conséquences du harcèlement qu'on va pouvoir observer. Mm-hmm. Chez les petits, ça peut être l'énurésie.
Ah oui, d'accord.
Ou des difficultés d'endormir.
Définition pour ceux qui n'ont pas d'enfants en bas âge.
Alors, énurésie, c'est quand on fait pipi au lit.
Voilà. C'est plus clair.
Des difficultés d'endormissement.
Ouais, bien sûr.
Des réveils nocturnes, des cauchemars. Mm-hmm, ça va se manifester plutôt chez les petits.
Ouais, chez les petits, c'est les symptômes classiques.
Et
ouais.
Chez les adolescents, on va pouvoir plutôt repérer un repli sur soi, de l'isolement d'un jeune qui était plutôt sociable.
Ouais.
Ou au contraire, une attitude qui va être soudain exubérante, alors que ce n'était pas le caractère de l'enfant ou du jeune.
Alors ça, c'est plus étonnant. C'est des réactions possibles qu'on observe à des situations de harcèlement de la part du harcelé.
De la part du harcelé, absolument.
C'est très étonnant, ça.
Oui. On observe aussi des troubles de l'humeur, troubles du sommeil, troubles du comportement alimentaire. Ça peut être des conséquences.
Bien sûr.
De l'absentéisme à l'école, évidemment, ou de l'anxiété scolaire. La chute des notes, également, peut être due au harcèlement. Et enfin, les addictions, ce que tu me disais, Annie, pour anesthésier la souffrance, ne plus penser qu'on est maltraité par les autres. Et puis, alors, c'est plus un signe qui doit alerter, mais c'est une conséquence. En fait, c'est la conséquence ultime, c'est-à-dire jusqu'où ça peut aller le harcèlement. Eh bien, ça peut aller jusqu'au suicide.
Oui, bien sûr, on a eu des cas
Il y a des cas.
Alors, c'est emblématique.
Il est de même vraiment difficile d'avoir des chiffres fiables.
Ouais.
Ce que j'ai lu, je l'ai lu dans un article du Parisien du 7 novembre 2024, qui indique que, donc, il n'y a pas de chiffre officiel, donc ça, c'est basé sur des remontées faites par des associations. Et elles sont rapportées, d'accord, là, dans le journal, par Laure Boutron-Marmion, qui est une avocate au barreau de Paris et qui est spécialisée dans la défense des mineurs. Donc, il y aurait 1 à 2 élèves par mois qui se suicident suite à du harcèlement scolaire, c'est-à-dire environ 20 enfants par an. On est en France.
Ah ouais.
Hein.
D'accord.
Voilà.
C'est inquiétant.
Ce qui est quand même tout à fait inquiétant. Et puis, j'ajoute une dernière chose pour cette première partie, c'est les facteurs aggravants qui sont en fait, vous allez voir, il y a un peu une histoire de double peine.
Oui.
Si je n'éternue pas avant.
Ah, ça, c'est
dur
le piège pour les animateurs.
On va y arriver.
On lui envoie un petit microbe qui va lui chatouiller le nez pendant qu'elle parle. On va vérifier comment elle va s'en sortir, Emma.
Je vais m'en sortir.
Est-ce que tu veux que je meuble pendant ce temps ?
Non, ça va aller. Donc, c'est les facteurs aggravants, c'est qu'un enfant ou un jeune qui a des soucis autres, par exemple des soucis à la maison, dans sa famille, ou qui a une faible estime de soi, ou bien qui va perdre de l'estime de soi pour une raison ou pour une autre, de choses qui a pu lui arriver par ailleurs dans sa vie en dehors de l'école, eh bien, à la fois, ça va le rendre plus facilement victime, parce qu'il est déjà fragile, donc c'est une cible facile, en fait.
D'accord.
Vulnérable,
voilà. Et en même temps, ça va faire boule de neige, parce que déjà, il a des problèmes, et en plus, il va être face à une situation de harcèlement, donc ça va d'autant plus intensifier
d'accord,
le mal-être de,
c'est la double peine,
de cet enfant. C'est la double peine.
Ok, donc ça veut dire qu'en fait, il y a une partie de ces enfants harcelés qui sont repérés consciemment ou inconsciemment par les harceleurs du fait de leur situation de fragilité.
Absolument.
Via divers symptômes, entre guillemets.
C'est ce qu'ils recherchent, en fait. C'est surtout la vulnérabilité chez l'autre.
Hein. Ouais.
Et ça va être leur cible.
Ouais.
C'est comme ça qu'ils auront leur plaisir.
C'est terrible d'entendre ça. Parce qu'on est dans une logique de proie, d'un prédateur et de proie.
Exactement.
Le prédateur, il n'est pas con, il s'attaque aux proies faibles. Hein. Il ne va pas chercher une proie puissante.
Ouais.
Alors,
tu vas voir, on va comme nuancer les choses dans le sens où souvent les harceleurs, en fait, ce sont aussi des enfants qui sont victimes aussi. On en parlera tout à l'heure.
Je comprends bien
qu'on va passer à la première pause musicale.
On a déjà commencé à bien plomber l'ambiance, donc on va faire une petite pause musicale. Emma, pendant que je bidouille, tu peux nous dire c'est quoi cette pause musicale?
C'est Annie qui sait.
Ah bah
c'est
Annie alors, suspense.
Maëlle.
Non, pas du tout.
Non, c'est l'autre.
C'est Émilie. En fait, c'est C'est une chanson qui a été reprise. Il y a des élèves qui ont fait dans un collège des mini-vidéos sur le harcèlement. Justement, c'est un travail qu'ils avaient. Et beaucoup ont utilisé cette chanson pour représenter le harcèlement. Et je trouvais ça chouette aussi de faire partager ça
faire
pendant
écho,
cette...
Ouais. Voilà. Tout à fait. Kinvé, petite Émilie, c'est parti.
Petite Émilie, 6 ans et demi, et l'unique fille d'une famille reconstruite. Une mère pour qui elle est toute sa vie, et un beau-père qui l'aime comme si elle était de lui. Si gentille, si belle, des yeux qu'en sorcelle, force de sa mère, elle en était la prunelle. Elle ne pouvait pas vivre l'une sans elle, leur relation était devenue plus que fusionnelle. Petite Émilie a 8 ans passés, rien n'a changé sauf qu'elle a déménagé. Fini la campagne isolée, elle vit maintenant en ville car sa maman fut mutée. Une nouvelle école, de nouveaux amis, elle ne mit pas longtemps à s'adapter à cette vie. Du haut de ses 8 ans, on peut dire qu'elle est ravie, car tout va pour le mieux pour petite Émilie. Émilie à 10 ans était devenue une petite fille comblée. On peut dire que l'école lui plaisait. Bonne élève pour maman, elle en était une fierté. Un peu rondelette, de bonnes petites joues, elle essuie les critiques de quelques jaloux. Devant les profs, il l'appelait bouffe-tout, mais ce ne sont que des enfants après tout. Petite Émilie, à 12 ans maintenant, adolescente enfermée au grand âme de maman. Fini les jolis visages souriants, c'est une petite fille maussade qu'elle est devenue à présent. Faut dire qu'au collège, tout avait changé, trop d'élèves ne faisaient que de se moquer. Partout elle se sentait rejetée, tantôt frappée, tantôt injuriée. Elle se demandait comment faire face, elle était devenue le souffleur de la classe. Sur les réseaux sociaux, il appelait la dégueulasse. Des photos d'elle tournées montrant son ventre qui dépasse, mais ne sachant pas comment faire ni comment réagir à cet enfer. Par honte et ne voulant pas voler sa mère, petite Émilie décida de se taire. Mais un soir de décembre, petite Émilie rentra chez elle dénudée. Ses camarades, tous ensemble, avaient enfermé dans le vestiaire pour la doucher. C'en était trop pour elle, trop qu'elle ne puisse encore supporter. Alors elle étendit ses ailes et prit son envol vers la paix.
Vous écoutez Couleur du Monde sur Calade, ma radio. Nous venons d'écouter Kinvé, petite Émilie. Vous l'avez compris, notre émission est consacrée au harcèlement scolaire.
Les couleurs du monde.
Et on va se demander maintenant, puisqu'on a vu ce qu'était le harcèlement, bien comment agir. Avec toi, Annie, tu vas nous parler d'abord de la prévention. Comment faire pour essayer d'éviter d'en arriver à des situations de harcèlement.
Effectivement, en fait, on va parler de la prévention. Et pour ça, en fait, on va voir que en France, ça a été longtemps ignoré ou sous-estimé. En effet, les pays du nord de l'Europe ont eu beaucoup d'avance sur nous, puisqu'ils en parlaient déjà en 1990, alors que nous, en France, on a commencé à en parler, à reconnaître la violence scolaire qu'en 2011.
Ah ouais.
Donc c'est notamment, il y a eu une première assise de l'éducation nationale sur la lutte contre le harcèlement. Mmh. Et on a commencé à mettre en place les journées internationales contre la violence et le harcèlement en milieu scolaire à partir de 2020. Donc,
c'est quand même, ouais, c'est vraiment hyper tard.
On est tard. Hein.
Ah oui,
donc,
carrément.
On a la loi, une loi qui vient d'être, enfin, qu'en 2022, visant vraiment à combattre le harcèlement scolaire et la libération de la parole sur ces situations. Le tabou qui pesait sur ces élèves, la violence entre les élèves, a été vraiment levée. Et voilà.
Oui, donc c'est quand même arrivé très très tard quand tu dis que dans les pays nordiques dès les années 80, ça a été occupé. 90, c'est...
Pourquoi ? Une sorte d'inertie en France vis-à-vis de ce problème ? Une volonté de... Enfin, quoi ? Une volonté, mais un manque de volonté justement d'affronter un problème complexe ? Je sais pas.
Voilà, je pense une prise de conscience en fait de l'importance, de l'impact que pouvait avoir ce fléau.
Prise de conscience tardive.
Voilà,
prise de conscience qui est arrivée tardivement.
Mais voilà, en fait, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que peut-être cette prise de conscience, elle est tardive, mais quand même, ça se développe, la prévention se développe de plus en plus parce qu'il y a grâce à cette prise de conscience... dans les établissements scolaires notamment, et ce qui permet de limiter le phénomène, mais sa reconnaissance doit se poursuivre et l'intervention précoce et la mise en place d'un suivi adapté sont nécessaires pour accompagner tous les victimes, mais aussi les agresseurs, pour pas que ça se perpétue.
Ouais, c'est ça, ouais, en fait, essayer d'éviter que les agresseurs ne deviennent... agresseur, en fait.
Voilà.
Prendre le problème à la racine.
Alors, moi, je me permettrais juste une petite précision. C'est que t'as vraiment parlé de la triade, mais c'est les éléments, les élèves ou les enfants qui subissent ou qui sont agresseurs, en fait, les n'ont pas un rôle figé, en fait. C'est que,
D'accord.
Voilà, ça peut...
C'est assez mouvant.
Voilà, c'est mouvant. C'est-à-dire que l'agresseur souvent a été agressé ou a
passé.
Été témoin et voilà, donc ça, c'est important. Et avant d'entamer vraiment la prévention, moi, ce que j'aimerais vous faire juste un petit rappel pour aussi comprendre le fonctionnement de ce qui se passe dans la tête de nos enfants, des enfants. Donc, je vais être brève et je vais pas... mais juste vous rappeler que le développement cérébral, ce qui se passe dans la tête des enfants, c'est que les enfants, jusqu'à entre 6 et 8 ans, enfin, ils vont surtout développer l'empathie, la coopération et les compétences relationnelles. Donc, ce qui fait que dès qu'ils vont souffrir, dès que l'autre ne voudra pas non plus être leur ami ou qu'il y a une difficulté de communication entre eux. Voilà, c'était juste au niveau des enfants. Et puis, dans la tête de nos ados aussi, eh bien, ils vivent aussi une tornade, c'est-à-dire un chamboule-tout, que ce soit ils ont des zones cérébrales qui sont pas encore matures et notamment il leur manque une zone pour être beaucoup plus apaisée et pouvoir raisonner qui est le cortex préfrontal mais malheureusement on peut pas faire pousser plus
vite que la nature, comme on dit.
Et ce qui fait que il faut être patient, mais c'est vrai que ils vont avoir des aires dans le cerveau, notamment les aires de perception, qui vont se développer bien plus tôt que les aires du raisonnement et de l'analyse. Et notamment, ils vont avoir aussi l'émotion qui va être en plein développement, pardon, et qui va être difficile à contrôler. Et c'est pour ça que nos enfants, en fait, les ados, on les traite, ils vont être beaucoup plus hypersensibles parce que tout ce qu'ils vont percevoir, que ce soit du très bien ou du moins bien, ça va être très très fort.
D'accord, ça va amplifier.
Voilà, ça va être outil encore pour rationaliser tout ça.
Voilà, et pour s'apaiser.
Et relativiser.
Et c'est exactement ça. Et donc, ils vont avoir une hyper réactivité, ils vont être un peu inflammables, ça va être un volcan en fait, où un rien peut déclencher la réaction. Alors que, par exemple, pour un adulte, ça va sembler pour ne pas être grand-chose. Et c'est... Enfin, voilà. Pour moi, c'était important. Et un autre point aussi chez les ados, c'est qu'ils ne supportent pas le sentiment d'injustice. Voilà. Ça me semblait important aussi de rappeler un peu ce qui se passe dans la tête d'ados pour voir aussi pourquoi on en vient à des souffrances et pourquoi c'est compliqué de rentrer aussi en relation. Donc voilà, et c'est vrai que ben les ados, ils ont leur corps qui les trahissent à la puberté, oui. et ce qui fait que ben ce changement, on remanie ben vraiment les relations sociales avec les pères, mais aussi avec les parents, oui. et ce qui fait que ben c'est compliqué pour eux, parce que à la fois ben l'ado ne se reconnaît pas, et en fait aussi les parents ne reconnaissent pas leurs enfants, oui. et donc quand on parle de crise d'ado, bah, y a aussi la crise des parents. Oui, et voilà, donc il faut tout travailler, mais c'est tout un travail et un beau travail aussi à faire. Mmh. Parce que, en fait, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que dans les acteurs qui sont importants dans la prévention, il y a à la fois les parents qui ont un rôle, mais vraiment primordial, hein, vraiment. Et des études montrent que la famille constitue un allié vraiment très, très fort et très, très important pour une bonne prise en charge et dans le soin pour les enfants. Oui. Il y a les parents, il y a en milieu scolaire, il y a tout le personnel scolaire, les éducateurs de la vie scolaire, il y a les professeurs et qui gravitent autour de l'enfant. Et il y a, les enfants entre eux aussi. Oui. Donc, je vous propose de commencer donc de vous dire les parents en quoi leur rôle est très très important.
Ok, alors c'est un peu l'idée vers qui la personne victime de harcèlement peut se tourner. On va aller du côté des parents, c'est ça?
Voilà, c'est ça.
Ok. Mais on va commencer par les parents en tout cas.
Voilà, on va commencer par les parents parce que c'est important que les enfants qui en sont victimes, eh bien se sentent soutenus aussi par les parents.
Bien sûr.
Alors, je vais juste mettre une petite bémol parce que en fait. Les parents aussi ont leurs propres angoisses, et notamment dans les aptitudes relationnelles des enfants, parfois, et qui peut les pousser maladroitement à intervenir ou à transformer de simples difficultés relationnelles en problèmes récurrents. C'est-à-dire que, par exemple, les inquiétudes de parents peuvent provoquer l'inverse de ce qu'ils auraient souhaité, oui. et peuvent provoquer notamment un mal-être relationnel. Mmh. Parce que ce qui se passe, c'est que quand les enfants grandissent ou vont en milieu scolaire, eh bien, en fait, ça peut raviver aussi des souvenirs, des blessures d'enfance chez les parents.
Bien sûr.
Et ce qui fait que, en fait, parfois, on peut faire des copier-coller qui peuvent être dangereux.
Mmh. Oui.
Et puis, il y a aussi le fait que pour les parents, être témoin de la souffrance de son enfant victime de harcèlement, ça conduit parfois à une détresse dans sa fonction de parentale, hein, dans les liens parents-enfant et dans le lien école-famille aussi.
Est-ce que du coup, tu es en train de nous dire que finalement, la meilleure chose à faire, nous, en tant que parents, pour prévenir le harcèlement, c'est d'être un peu bien dans nos baskets et de prendre du recul avec ce qui se passe ?
Oui, exactement. Ouais. Mais c'est...
Alors, ok, d'accord, j'entends bien. C'est un aspect des choses, mais il doit y avoir aussi, je pense, certains cas, peut-être assez fréquents, de l'enfant qui cache à ses parents tout ça.
Oui.
Alors ça, c'est une autre configuration, hein, qui n'est pas celle que tu es en train de décrire, mais je pense que ça doit arriver aussi dans un certain nombre de cas, non ?
Voilà, c'est ce que j'allais le dire, y venir sur ce sujet.
D'accord.
Et c'est là où le parent est encore plus, dans sa posture de parent, fragilisé aussi, parce que le parent et les adultes sont prévenus un peu tardivement. Et souvent, parce que la situation est grave, quand les faits sont graves, quand l'enfant ne parle pas et ne dit rien.
D'accord.
Effectivement.
Et tu peux nous parler un petit peu peut-être maintenant de la méthode tac à tac, parce que c'est quelque
alors,
chose...
Je vais juste finir, si tu permets,
Bien sûr.
On parle des parents dont les enfants sont victimes, mais aussi il faut dire que des fois, les enfants, ils sont impliqués activement dans du harcèlement scolaire, ils participent sont les intimidateurs, et c'est pas facile non plus pour les parents.
Oui.
C'est un choc en fait face que les parents peuvent essayer de déployer des stratégies de minimisation ou de protection, de justification pour faire face à l'intenable en fait cruauté exprimée par leur propre enfant. Ouais. Donc c'est aussi et c'est pour ça que c'est important de travailler avec les parents et que les parents en fait notamment dans les établissements scolaires, eh bien c'est de faire confiance à l'équipe. Alors c'est pas forcément facile de faire confiance parce que des fois ça se passe pas forcément non plus très bien, mais plus on peut avoir un climat de confiance, d'alliance aussi, parce que les enfants grandissent aussi grâce à la coéducation en fait. Bien c'est sûr. Avant tout les parents et aussi l'école est là pour
au-delà que des seuls profs bien sûr
tout à fait
l'équipe globale. Donc en fait t'en appelles au fait que les parents acceptent d'aller pleinement échanger et collaborer avec l'équipe éducative, je sais pas comment on peut l'appeler.
Oui, c'est ça,
ouais,
c'est ça.
Éducative.
De pas avoir de l'école, du collège ou du lycée pour envisager ensemble la meilleure stratégie entre guillemets.
Voilà, c'est exactement, c'est pour donner les meilleures chances à son enfant de d'évoluer.
Donc ne pas rester chacun dans son coin quoi, côté parents et côté équipe pédagogique.
Ouais. Effectivement, parce que en fait, ne pas gélifier en fait la situation non plus, c'est-à-dire que
gélifier. Voilà une expression étonnante.
Gélifier, non, en fait,
c'est que rien n'est figé en fait.
Voilà,
un enfant qui est victime, il va pas forcément être victime toute sa vie ou pendant toute sa scolarité.
C'est ça. Ne pas se fixer devant cette espèce de traumatisme à la fois pour les parents qui découvrent ça et pour les enfants. Ça peut bouger et il faut contribuer à faire évoluer tout ça.
Voilà, et à le faire grandir et justement en confiance, parce que c'est ce qui est important, parce que nous on voit dans les écoles certains parents, et on peut comprendre parce qu'il y a des enfants qui ont subi des traumatismes physiques, des agressions sexuelles aussi même en primaire, et on peut comprendre que ces parents soient vraiment traumatisés aussi et qu'ils aient peur et qu'ils aient une réaction un peu de parent loup et à réagir, mais ce qui fait que en fait leur posture pose aussi question, parce que chaque jour ils vont demander à leur enfant comment ça va, qu'est-ce qui t'a dit, et alors que les enfants ont des relations entre pères qui peut des fois être fluctuante aussi, c'est pas toujours aimante et comme a dit joliment une petite élève de sixième, c'est que ça fait partie du contrat aussi dans l'amitié ou dans les relations, c'est que c'est ça peut être tendu.
D'accord, très bien.
Alors, il y a juste encore une petite chose sur le fait de vers qui on peut se tourner quand on est victime. Il me semble, il y a un numéro de téléphone. Enfin, est-ce que tu as deux, trois petites choses à nous dire là-dessus, Annie ?
Oui. Il y a plusieurs choses qu'on peut dire. C'est justement au niveau national, c'est que il y a l'application, enfin il y a le 30-18.
Ils font le 30-18 et ils tombent sur quoi ?
Eh ben justement, ça fait partie de l'association de l'e-enfance.
D'accord.
Et qui est là en fait pour écouter justement les personnes qui sont victimes du harcèlement et du cyberharcèlement aussi, ou des violences. On peut mettre l'application et il y a aussi un chat. Et ce qui est important, c'est qu'ils permettent, ça permet vraiment de communiquer et de voir aussi les nouvelles lois ou quand on a des questions sur ces sujets-là qui sont...
Ce que je te propose, c'est que tu nous transmettes tout ça pour qu'on puisse mettre ça sur le podcast, d'accord ? Comme ça, ceux qui veulent noter tout ça, ils pourront aller sur le podcast.
Tout à fait.
Et il n'y a pas que ça non plus, parce qu'il y a aussi le 3114 qui est la prévention au suicide. C'est un numéro national qui est important, où là, il y a toujours un professionnel de soins qui formé à la santé mentale qui répond à la...
Alors j'ajoute, parce qu'il se trouve que j'ai été un jour confrontée à une situation où je n'avais pas ce numéro, et si je l'avais eu, en fait, eux, ils peuvent faire intervenir le SAMU.
D'accord.
Quand le SAMU t'envoie balader... En fait, parce qu'ils ne sont pas vraiment formés à des situations vraiment graves, que ce soit pour des jeunes ou pour des adultes. Hein. Le 31-14, en fait, ils sont en lien avec le SAMU. Et quand eux, ils jugent que la situation est suffisamment grave, ils peuvent
envoyer... Le SAMU réagit plus vite parce qu'ils savent qu'ils ont affaire à des professionnels, que leur diagnostic est plus précis.
Oui, exactement.
Je comprends.
Et il y a le 119 aussi, ce qui est les enfants maltraités.
119, ouais,
voilà,
d'accord.
C'est ça. Alors, au niveau local, il y a quand même aussi pas mal de choses. Hein. Il y a la maison des ados, hein, 22 rue de Seigne à Villefranche, et qui accueille les élèves, les parents aussi, les parents sans leurs enfants aussi.
Oui. Maison des ados, rue de Seigne à Villefranche, je répète, pour que les gens aient le temps de...
Voilà. Et on peut y aller sans rendez-vous. Hein. Après, ils vont donner des rendez-vous, on peut vraiment y aller comme
passage sans rendez-vous.
Premier
sans
passage et puis les ados, en fait, c'est anonyme et gratuit. Donc, ça restera vraiment secret. Voilà. Et puis, il y a la permanence ado aussi, qui est très bien. C'est une équipe mobile qui dépend de l'hôpital Saint-Cyr au Mont-d'Or.
D'accord.
Et c'est des chouettes équipes et qui accueillent les élèves, les jeunes, en fait. Alors, il y a une permanence à Saint-Georges-de-Rhénens. Il y a une permanence à Anse. Il y a une permanence à Glaizé.
Ouais.
D'accord.
Donc, je vous laisserai justement...
On mettra tout ça sur le
podcast. Casse de l'émission.
Ok, très bien. On va faire une petite pause musicale.
Il était dans ma classe, il vivait dans ta rue. C'était celui d'en face, oui, tu l'as déjà vu. Il partageait ton cœur dans les matins méchants. Tu riais de lui car il était différent. Aujourd'hui, c'est toujours la même histoire. Dans la vie ou dans les bruits de couloir. Dans les beaux bureaux en glace, comme dans les couloirs d'école, c'est toujours l'effet de masse qui nous casse et nous isole. Sur les écrans sous des masques, dans des regards qui rigolent, c'est toujours l'effet de masse qui nous casse et nous isole. Il était dans ma classe, il vivait dans ta rue. C'était celui qui passe, mais son nom je sais plus. Qu'est-ce qu'on peut être idiot quand on est plus nombreux? Je l'avoue, le cœur gros, oui, j'ai ri avec eux. Aujourd'hui, c'est toujours la même histoire. Dans la vie ou dans les bruits de couloir. Bureau en glace, comme dans toutes les cours d'école, c'est toujours l'effet de masse qui nous classe et qui nous cogne. Sur les écrans sous des masques, dans des regards qui rigolent, c'est toujours l'effet de masse qui nous casse et nous isole. Plusieurs. Il faut en faire valoir pour se sentir meilleur. Il était dans ma classe, il vivait dans ta rue. C'était celui d'en face, on ne l'a plus jamais vu.
Thank you.
Les couleurs du monde.
Vous écoutez Les couleurs du monde sur Calade, ma radio. Notre émission de ce mois est consacrée au harcèlement scolaire. Nous venons d'écouter Maëlle, l'effet de masse. Je vais te laisser la parole, Emma, pour nous resituer un petit peu ce dont on est en train de parler et de nous représenter notre invité.
Tout à fait. Donc, on était en train de parler de comment agir quand on est victime de harcèlement. Et Annie, qui est infirmière scolaire, venait de nous parler des parents et du rôle des parents et de ce que pouvaient faire les parents. Et maintenant, elle va aussi nous parler de ce qui se fait, de ce qu'elle fait auprès des enfants et des jeunes.
Tout à fait.
Alors, juste pour finir, par rapport aux parents, parce que ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'ils sont chouettes, ces parents. Ils sont en demande d'action concrète et d'accompagnement. Donc, il y a 90% quand même des parents qui sont en attente. Et un des grands moyens qu'ils peuvent faire, les parents, c'est pour protéger leurs enfants, c'est de ne pas oublier que la loi de la majorité numérique, c'est 15 ans. En fait, c'est la loi du 7 juillet 2023. Donc vraiment, pour lutter contre la haine numérique et pour protéger vos enfants, n'oubliez pas cette loi.
Ce qui signifie, ce que tu veux dire par là, c'est qu'en fait, il faut signifier aux harceleurs qu'à partir de 15 ans, vous êtes juridiquement responsable. Vous ne pourrez pas vous cacher derrière papa-maman. C'est ça ou je dis une bêtise?
Ben, c'est surtout que normalement, c'est que les enfants doivent
être surveillés
et ne pas être sur les réseaux avant 15
d'accord,
ans.
D'accord, ok.
C'est dans ce sens-là
avant
que
15 ans,
je
suis d'accord.
Je
mais c'est vrai que c'est moi, jusqu'à je pense plutôt à ceux après 15 ans, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de harcèlement
avant 15
ans.
Avant 15 ans, les enfants doivent être
surveillés. Alors là, c'est un rappel aux parents alors pour leur rappeler que
dans la prévention,
c'est votre responsabilité jusqu'à leurs 15 ans quant au comportement de leurs enfants sur les réseaux sociaux,
etc. Mais ils ne doivent pas être sur les réseaux sociaux quand on voit, nous, dans les classes, quand on travaille avec les élèves, et dans les classes de 6e, même plus, dans les classes de primaire, et ils sont sur TikTok, ils ont...
Ils ne devraient pas, mais ils y sont quand même.
Voilà, donc c'était juste pour rappeler, parce que c'est important pour la prévention.
Tout à fait.
Donc, un des rôles aussi importants pour lutter de prévention aussi du harcèlement, c'est tout le personnel des établissements scolaires. Parce que un des bons moyens, c'est d'être vigilant sur des zones... la posture de l'adulte est importante sur des zones à risque. Et les zones à risque, c'est là, par exemple, les toilettes, les couloirs, le self ou en classe
cour de
aussi.
Récré, pour les
cours de récréation.
Aussi.
Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est important qu'on reste vigilant.
Ouais.
Et même aussi, c'est aussi les adultes, parfois, par rapport aux enfants, même en classe, c'est important de contribuer à ne pas à être vigilant et à ne pas taquiner ou faire des mêmes remarques aux mêmes élèves. Parce que ça induit aussi une vulnérabilité et que les autres camarades, notamment ceux qui sont intimidateurs, peuvent profiter de la situation
ça c'est important, appuyer encore
c'est un message à l'attention des
enseignants,
des instituteurs, professeurs. On a cette responsabilité d'avoir conscience des effets pervers éventuels de certaines remarques un peu trop répétitives
tout
sur certaines catégories. Le problème, c'est que des fois, les profs ne se doutent même pas qu'ils sont harcelés. Mais bon, il faut faire attention de manière ou d'une autre, prendre conscience que les enfants sont harcelés ou harceleurs. S'ils se mettent à faire des remarques répétées sur des enfants qui ont le profil d'enfants harcelés, ça peut être très préjudiciable pour eux.
Cette posture, ça, c'est vraiment l'effet de groupe. Par exemple, dans une classe, aujourd'hui, il y a une élève qui me disait qui se fait harceler et elle dit dans la classe, il disait « Ah, regardez, qui passe au tableau ?» Et le prof, il va rétorquer, il va répondre. Mais ce qu'elle disait, c'est qu'ils disent toujours « Le discours d'adulte ne change pas. » Et c'est comme d'habitude, on va faire une remarque comme quoi « Il ne faut pas faire ça à ses camarades. » Mais voilà,
ça ne va pas plus loin.
Oui, bien sûr.
Ouais. Alors, moi, ce que je veux dire, c'est que quand même, il y a des choses qui sont mises en place aussi pour le personnel de la vie scolaire et puis pour l'ensemble des professeurs aussi. C'est que il y a des formations, en fait, et notamment sinon, à la formation, à la méthode, à la préoccupation partagée,
dont
il y a la
méthode, après.
Voilà, la méthode phare. Il y a aussi des formations à la santé mentale et qui sont importantes aussi pour justement répondre à la souffrance des jeunes.
D'accord.
Donc voilà. Et puis le dernier acteur aussi qui est important pour la prévention dans le harcèlement, c'est aussi de compter sur les pairs, les pairs les camarades en fait qui peuvent vraiment avoir une posture pour aider ceux qui sont victimes. Mmh. Et c'est pour ça que nous, dans certaines écoles, on a mis en place des pièces de théâtre. Moi, j'en profite aussi pour remercier la région. Parce que la région, en fait, quand on dit que les politiques se mobilisent, oui. Parce que, par exemple, on a le projet Stop au harcèlement et qui permet de bénéficier d'une subvention. Mmh. Et par exemple, nous, on a fait venir une compagnie, la compagnie des clics, compagnie Emma, qui permet en fait de montrer aux enfants, aux jeunes, ce que c'est vraiment le harcèlement. Et ça peut, ce qui est intéressant, notamment si je prends Va et Victis de la compagnie des clics, je leur fais un clin d'œil en même temps. D'accord. Et bien en fait, dans cette pièce-là, ça commence par la vie professionnelle et après, on remonte jusqu'à l'enfance. Et en fait, ce qui est important, c'est que ce qui est intéressant, c'est que le théâtre encourage la libération de la parole et les jeunes en fait ça les amène à réfléchir et ça éveille en eux en fait une prise de conscience essentielle face à ce fléau. Et ce qui est intéressant dans ces pièces de théâtre, c'est que après on a une discussion sur ce sujet et les élèves on remarque bien que parfois ils peuvent avoir la posture de témoin et sans le vouloir encourager ce...
Oui, on voit bien en fait dans la pièce, parce que je l'ai vu aussi, le témoin justement qui est là et qui n'agit pas. Et en fait, le témoin, il est coupable aussi. Enfin, il a vraiment un rôle à jouer.
Oui, ouais, tout à fait.
Et on le voit bien, effectivement, dans cette pièce-là, en tout cas, que j'ai vu aussi.
Parce que c'est vrai que les jeunes, c'est important pour eux d'appartenir à un groupe. Et quand ils sont dans le groupe, ils perdent leur liberté, en fait. Et c'est plus ça.
Tout à fait. Mmh. Alors, je vais parler un petit peu de la préoccupation partagée. C'est une méthode qui est intéressante parce qu'elle a vraiment plusieurs vertus. La première vertu, déjà, c'est qu'on va commencer par recevoir la victime. On va recevoir la victime et on va l'écouter et on va s'occuper d'elle. Parce que parfois, on va avoir tendance à tout de suite aller sauter sur le harceleur. Mmh. Et en fait, la première personne dont il faut s'occuper, c'est celui qui subit. Donc, on va la rassurer.
Alors ça, tu appelles ça la méthode de la préoccupation partagée. Ça t'est mis au point par qui, ça? Là, je t'ai coincé.
Ouais, je parce
écoute,
qu'en fait,
c'est pas grave.
C'est
Jean-Pierre Bellon, en tout cas,
Jean-Pierre Bellon et Marie Cartier. Voilà,
d'accord,
j'ai retrouvé.
Très bien. C'est quoi
Ce sont des profs de philo, Jean-Pierre Bellon. Exactement. Et Marie Cartier, c'est une prof de lettres qui a aussi une licence de psycho.
D'accord.
Et qui ont créé le centre Résis.
D'accord.
J'ai la réponse. Vas-y. La méthode, en fait, elle a été créée par Anatole Pica.
Voilà. Anatole Pica, très bien.
Et
alors
en fait,
expliquez-nous ça.
Et ces deux, Marie Cartier et Jean-Pierre Bellon, ils ont
structuré cette méthode,
fait, ils l'ont
développé.
Adapté à la France.
Ils l'ont adapté à la France. Très bien.
Et donc la victime, on l'écoute, on note les faits et on lui dit qu'on va s'occuper d'elle. Et puis ensuite, on va recevoir un petit groupe d'élèves qu'on va appeler des témoins, parmi lesquels il y a le harceleur.
D'accord.
Ou l'intimidateur.
L'intimidateur, méthode, on préfère dire l'intimidateur. Et on va leur dire, écoute, on a entendu que... Écoutez, tous les deux ou tous les trois, on a entendu que tel élève, quand même, il se passait ça, il y aurait des moqueries, peut-être on lui donnerait des surnoms... ça te parle? Vous avez entendu quelque chose à ce sujet? Et puis, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire, en fait? Vous avez des idées de ce qu'on pourrait faire pour l'aider?
D'accord.
On vous laisse réfléchir et puis on se revoit dans deux jours. Hein, dans deux D'accord. jours, vous revenez me voir, puis vous me direz qu'est-ce que vous avez pu observer, puis est-ce que vous avez eu des idées pour aider cet enfant. Et en fait, très souvent, ce qui se passe, c'est que du coup, l'intimidateur, en fait,
ouais.
on le place dans une posture totalement inverse. Et il va devenir le défenseur de celui qu'il a harcelé.
D'accord.
Parce qu'en fait, on a changé sa posture.
D'accord.
Sans l'accuser.
Ok.
C'est-à-dire qu'en fait, on lui a à aucun moment, l'élève qui est venu parler de son problème, il ne pourra pas subir de représailles. Hein,
bien sûr, il n'a pas été identifié.
On a entendu dire que...
C'est une invitation à changer de posture. Quoi.
En fait, on va vraiment l'inviter à changer de posture.
Et une posture gratifiante
protecteur,
en plus.
C'est une posture gratifiante. On crée un cercle vertueux.
D'accord. Alors, question brutale, est-ce que ça marche?
Eh ben, alors, moi, j'ai une anecdote. Alors, je peux la raconter. Je l'ai fait avec la CPE de notre lycée. J'avais une élève qui subissait des remarques désagréables de ses camarades. Et comme c'était répétitif, elle en venait à pleurer. La maman disait elle a mal au ventre tous les matins avant d'aller à l'école. On reçoit les deux petites minettes avec la CPE. Et puis, on leur dit ça. Voilà, les deux intimidatrices. Mmh. On leur avait donné rendez-vous deux jours plus tard. Elles sont revenues le lendemain. Écoutez, j'étais donc avec la CPE. On pense que c'est nous qui avons fait ça. Et on est vraiment désolés. On ne s'était pas du tout rendu compte. On est tout de suite allé la voir. On s'est excusé. On est hyper désolés.
Incroyable.
Et voilà, affaire résolue.
Bravo. Bel exemple. Bravo. Oui, Annie.
Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que l'objectif, ce n'est pas de mener une enquête dans cette méthode. C'est vraiment parce qu'en règle générale, ce n'est pas de savoir la vérité vraie.
Ouais.
C'est plus l'objectif, c'est vraiment de traiter la souffrance de l'enfant, du jeune.
Et de changer le comportement pour que, en fait,
arriver à modifier les postures et les comportements et les situations relationnelles en quelque sorte.
C'est pour ça que je pense que c'est pas la coutume. En France, on va tout de suite taper sur les doigts.
Oui, bien sûr.
Alors que là,
mais
en fait, c'est pas l'idée. On va pas aller taper sur les doigts de celui qui a mal fait. On va changer on va juste changer sa posture et en fait,
l'aider à se positionner différemment.
Et par ailleurs, j'en profite pour dire, j'en parlais un tout petit peu au début que, quand même assez souvent, les enfants qui sont des intimidateurs ou des harceleurs, ça vient pas de nulle part. Ce sont pas juste des mauvaises personnes.
Ouais.
Ce sont aussi des enfants ou des ados qui vivent des choses difficiles, qui peut-être ont subi du harcèlement, de la violence à la maison. Et donc, le fait de retourner cette posture et d'en faire aussi de bonnes personnes, ça peut leur montrer que tout est possible et qu'on peut changer. Et donc, du coup, c'est aussi vertueux. Voilà, c'est pas gélifié. Et donc, c'est aussi vertueux pour le harceleur ou l'intimidateur.
D'accord.
Autant que, finalement, c'est aussi vertueux pour lui.
Donc
on agit à la fois pour le bien-être du harcelé, mais en même temps, on va aussi faire avancer le harceleur au lieu de juste lui taper sur les doigts.
Alors, très bien, il nous reste quelques minutes. Est-ce que vous voulez rapidement nous parler des causes du harcèlement, mesdames ?
Eh bien... tu veux ou...
Ouais, moi ce que je dirais c'est que on peut mettre beaucoup d'éléments de causes, mais c'est surtout en fait c'est surtout la vulnérabilité. On va chercher la vulnérabilité parce que chez l'enfant.
La vulnérabilité, alors quand même la différence, c'est quand même quelque chose chez les ados au collège, c'est typique, on veut tous être standard. Et donc le fait d'avoir une apparence physique peut-être qui peut être un peu différente des autres, une couleur
caractéristique.
Aussi l'identité de genre, une fille qui va être jugée masculine ou l'inverse, une orientation sexuelle supposée pas classique, éventuellement un handicap ou peut-être même, les élèves 10 parfois peuvent être victimes aussi de moqueries et de harcèlement, ou des enfants qui appartiennent à un groupe social ou culturel un peu particulier, qui ont des centres d'intérêt différents aussi. Tout ce qui va finalement faire qu'un enfant ou un jeune sort du lot. Malheureusement, outre la fragilité, ça peut la vulnérabilité, ça peut aussi être une cause.
Très bien, très bien. Mais il nous reste encore quelques minutes, donc on peut encore ajouter quelques informations. Parce que vous nous avez parlé, par exemple, en termes de solutions, la méthode de la préoccupation partagée. Mais mis à part cette proposition, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme méthode
existante? On avait parlé de tac-à-tac. Alors peut-être que tu peux nous en dire deux mots quand même. Je l'ai passé finalement parce qu'on était un peu en retard. Du coup, Tu peux nous dire, Annie, en quoi ça consiste ce jeu qui s'appelle Tac-à-Tac ?
Eh bien, oui, justement, c'est un jeu qui peut se jouer en famille, qui peut se jouer aussi à l'école. Nous, c'est ce qu'on a fait aussi à l'école avec des quatrièmes, donc qui a pour objectif de développer l'esprit de répartie et la confiance en soi. Donc, c'est un jeu de cartes où les joueurs doivent répondre à des piques verbales, des moqueries ou des remarques désobligeantes. Par exemple, vous avez un dessin avec une tête d'une personne et en fait, sa bouche en forme d'égout. Voilà, donc l'autre doit répliquer, soit doit donner des réponses variées. Donc soit
suspense. Qu'est-ce qu'il va
qu'est-ce
répondre
qu'il pourrait dire, par exemple, ta bouche, elle sent vraiment les égouts.
C'est terrible.
Qu'est-ce que tu peux répondre?
J'en suis bouche bée, je ne sais plus quoi répondre. Il va me faire harceler par Emma.
Voilà, donc c'est des réponses qui peuvent être...
t'oses pas le dire à la radio, c'est ça, Annie?
Voilà, c'est ça.
D'accord.
C'est pour ça.
Alors,
que
ce jeu, tu le trouves
préfère
où,
pas...
où est-ce que, c'est un jeu qui sous forme de cartes, comment ça marche?
Oui, en fait, c'est vraiment ça. C'est un jeu de cartes avec des dessins.
Et il se vend en commerce?
Voilà, exactement. Il se vend. On va pas faire de la pub pour certaines marques.
Non, mais bon, on peut le trouver, donc jeu de cartes, et on peut l'utiliser. C'est une forme d'entraînement à apprendre.
Entraînement,
un peu,
avoir de la répartie.
Voilà, c'est ça. C'est de permettre aux joueurs
en situation de proie, quoi.
Voilà, c'est ça. Et de développer son humour et de voir recul sur les situations.
Très bien, très bien.
Peut-être juste sur le mot de la fin. Il y a mon fils qui a été embêté un petit peu l'année dernière. Mm-hmm. Et je l'ai. Et c'était aussi. Enfin, il pouvait travailler sa posture. Et du coup, je l'ai emmené chez une sophrologue que je connais.
D'accord.
Et en fait, c'est vraiment une séance. On a travaillé le fait de se tenir bien droit quand il voit des enfants qui l'embêtent viennent vers lui au lieu de rester assis, replié sur lui.
C'est intéressant, ça aussi.
Et puis vraiment juste de travailler à. Je vais pas me laisser faire, de se dire. Dans sa tête, je suis fort,
l'attitude
j'ai confiance
mentale,
en moi.
Et la posture.
Et voilà,
avec
des petits exercices de sophrologie, ça peut être très efficace aussi. Voilà.
Ok. Écoutez, Annie, merci d'avoir participé à cette émission.
Merci aussi.
Emma, merci à toi également.
C'était
auditeur de Calendma Radio, on vous dit au mois prochain.
Calade. Les couleurs du monde.
Histoire.
Pensée.
Culture.
De Villefranche à Tataouine.
Sur le 100.9 et radio-calade.fr.